rien ne peut remplacer la parole d'une personne ayant vécu un choc plus ou moins grave, plus ou moins douloureux. Aussi, l'association Elie m'a proposé de tendre mon micro et d'enregistrer ces témoignages. Déchocage est le résultat de ces rencontres. Nicolas, bonjour.
Bonjour.
Tu m'as invité là dans un lieu un petit peu particulier parce qu'on est, on est pile poil en face du port de Granville. Qu'est-ce qui t'a amené à te retrouver aujourd'hui en face de moi? Qu'est-ce qui fait que tu te sois rapproché de l'association Elie?
Oh bah c'est quelque chose de très simple. En fait, j'ai eu un lymphome en 2015 qui m'est tombé dessus un peu à un moment où je ne l'attendais pas. Et lors d'un café rencontre au CHU de Caen, j'ai croisé Elie. Alors ils étaient assez nombreux, moi je savais pas trop ce que je venais faire là. Moi j'aime bien prendre le café, donc je suis surtout venu pour ça, même si ça fait un petit peu loin Granville-Caen pour un simple café. Mais comme j'étais en arrêt maladie, j'avais un peu de temps. Et voilà, j'ai rencontré des personnes formidables. J'ai rencontré aussi une association qui est dans un fonctionnement qui me plaît, c'est une association de patients, c'est-à-dire que on travaille pour les gens qui sont touchés par le lymphome, mais pour la cause quoi. Il n'y a pas autre chose que travailler pour la cause, apporter un peu de bien-être, apporter de l'information, voilà. Et alors moi j'ai toujours travaillé dans l'associatif, parce que je suis éducateur sportif, alors plutôt du côté des salariés. Et je ne m'étais jamais vraiment impliqué dans une association. Et là, je me suis dit, tiens, moi, je peux, dans ce cadre-là, apporter une petite pierre à l'édifice. Alors, j'avoue qu'il y avait aussi un petit côté intéressé. Je suis navigateur. Et comme tu le sais, les navigateurs, souvent, soutiennent des grandes causes. Moi, je venais de trouver ma cause, le temps d'une maladie et d'un café. Je savais que ce que je ferais en repartant naviguer, voilà. Donc j'avais fait d'une pierre deux coups, voilà. À la fois apporter ma pierre à l'édifice d'Elie et puis remettre quelques pierres pour reconstruire mon projet bateau.
Alors ton rôle au sein d'Elie, c'est quoi exactement?
Alors mon rôle, moi je suis un simple bénévole, je paye mon adhésion, je fais un don, donc j'ai pas de rôle spécialement défini. En fait, dans le cadre de mon activité de navigateur, j'ai des compétences qui sont celles d'emmener les gens sur l'eau, de transmettre aussi ma passion, mon savoir, de les faire rêver. Souvent, quand on me demande ce que je fais, je dis que je fais rêver.
C'est un beau métier.
J'aide les gens à rêver, ouais. Ben, c'est un métier passion, quoi. Je sais pas s'il est tout le temps beau, mais c'est un métier passion.
Un métier où tu fais rêver les gens, pour moi, c'est un beau métier. c'est peut-être mon côté naïf.
Ceux qui font du bateau, qui aiment l'aventure, qui aiment la nature, les grands espaces, tout cela, en général, c'est vrai que ça les fait un peu rêver. Et je me suis dit que c'était le bon moment pour mettre en place, avec Elie, un côté qui est un côté partage dans mon activité, qui est de pouvoir emmener des gens en mer, reprendre possession d'eux et reprendre confiance en eux, en intégrant ce qu'on fait. Le départ se fait là, sur le ponton que tu vois juste en dessous, là, quand Elie vient à Granville et qu'on fait les opérations. On emmène des jeunes naviguer et atteindre une île.
Les jeunes ont quel âge en général?
Alors on est sur cette opération là, on est sur ce qu'on appelle les AJA, donc ce sont des jeunes adultes, c'est entre 18 et 30 ans.
D'accord.
Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des jeunes qui rentrent dans la vie professionnelle. Alors souvent ils sont soit en sortie de lycée, soit étudiants, soit entrant dans le milieu du travail. Donc des périodes assez charnières dans la vie. Et puis patatras, ils ont l'accident, donc on leur diagnostique un lymphome et on leur dit écoute, là va falloir que tu ralentisses un peu, voire que tu mettes entre parenthèses ce que tu fais pendant quelques mois, voire certains quelques années. Donc forcément ça les marque assez fortement. Ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé moi je suis dans le milieu de la compétition. Le milieu de la compétition, c'est assez dur, t'as pas le droit à l'état de faiblesse. Tu dois toujours prouver que t'es le meilleur, si tu tombes tu dois être capable de te relever. C'est jamais tellement facile, tellement de choses peuvent changer le cours d'une navigation, le cours d'une carrière même. Il faut savoir que moi, je considère que ma maladie, il y a eu l'avant et l'après. C'est souvent ce qu'on voit chez les gens qui ont été touchés par un accident de la vie, comme ça.
Je me permets une petite parenthèse, parce que moi j'ai la chance de connaître un petit peu ton parcours, mais pour ceux qui nous écoutent, peut-être nous expliquer en fait comment tu es arrivé à la compétition et qu'est-ce que tu faisais exactement sur ton bateau.
Alors, moi je suis arrivé à la compétition il y a longtemps. J'ai toujours été féru de sport depuis gamin, de compétition, voilà. On l'a ou on l'a pas, on n'est pas obligé de faire la compétition pour faire du sport sans compétition, attention. L'important c'est de se réaliser soi-même. Moi j'y ai ajouté la compétition, la voile, le rapport à la mer, c'est dans ma famille depuis que je suis gamin. Et j'ai à un moment décidé d'intégrer le milieu de la professionnalisation, donc de métier, dans le milieu de la voile. J'étais à la fac, ça se passait pas exactement comme je voulais, même si c'était vachement intéressant. Et donc j'ai décidé de faire un petit break et je me suis dit, tiens, je vais venir faire mon diplôme d'éducateur sportif à Granville, ici, au CRNG. Et puis finalement, j'ai croisé des gens avec qui je suis toujours en contact, qui sont des amis. J'ai aussi rencontré mon premier boulot, mon premier patron. Et puis j'ai aussi trouvé le côté voile de compétition que je connaissais pas avant, même si je faisais du bateau à voile. Et voilà, j'ai mordu, j'ai tenté l'aventure de la compétition, ça m'a plu, je m'y suis mis à fond. Et puis il y a eu un moment où les marins que j'admirais, en fait, c'est devenu mes adversaires et puis des copains aussi que je croisais sur les pontons.
Ah bah, de toute façon, là, dans le milieu de la compétition, je pense que quel que soit le milieu, on se retrouve toujours confronté à un moment donné effectivement à quelque chose de cet acabit. Alors, pour faire une deuxième parenthèse et rattacher les wagons, à quel moment toi tu as découvert que t'étais mal? Alors tu nous as dit la date, mais le par rapport au moment où toi tu faisais de la compète, est-ce que t'as dû mettre des choses de côté? Comment ça s'est passé en fait, ton rapport à la voile avec la maladie?
Mon rapport à la voile avec la maladie, je suis rentré dans le milieu professionnel, parce qu'il faut savoir qu'avant, je bossais dans le milieu associatif, dans la voile. J'étais entraîneur, même si je faisais de la compétition, dans un cadre plus amateur. Et c'est devenu mon métier à partir du moment où je me suis mis à mon compte. Donc, il fallait que je gagne ma croûte. Donc, soit en étant sportif pro, soit en ayant des activités autour de la connaissance, de la performance, du sport, de la voile, qui me permettent de payer les factures. Et puis, donc depuis 2011, j'étais dans le milieu professionnel. J'ai fait ce qu'on appelle la solitaire du Figaro, qui est une course, comme le dit son nom, qui se passe en solitaire. Donc je naviguais contre des gens fabuleusement célèbres, comme Michel Desjoyeaux, Yann Eliès, enfin, Jérémy Bayou, Charlie Dalin, Thomas Ruyan. Je m'entraînais avec Thomas. Et voilà, puis ça allait son petit bonhomme de chemin. La voile de compétition demande qu'on trouve des partenaires, qu'on monte des projets. Donc je suis un peu ce qu'on appelle un skipper entrepreneur. Et puis je me suis retrouvé une année sans vraiment de partenaire pour faire de la course. Donc j'ai utilisé mon côté entraîneur pour bosser. J'ai bossé avec des Anglais. Et en 2015, en fait, j'étais en suivi de projet pour les Anglais. Puis un jour, je rentre à la maison. Je suis souvent en déplacement. Et puis je dis à ma femme, voilà, je suis fatigué, j'ai mal au dos, ça va pas. Et ça s'est passé en 3 jours. Hein. Le vendredi, je rentre, je suis fatigué, j'ai mal au dos. Le samedi, j'ai toujours mal au dos. Le dimanche, j'ai encore mal au dos. Le dimanche soir, j'appelle mon père qui est médecin. Je lui dis, écoute, papa, j'ai mal au dos, je fais quoi? Il me dit, t'as pris quoi? J'ai dit, j'ai pris ça. Et il me dit, arrête. Si t'as encore mal demain, va voir ton médecin. Oui, parce que j'avais un autre médecin à Granville.
Chacun son métier. Voilà.
Je vais voir mon médecin et le lundi soir, j'étais aux urgences. Je passais un scanner. J'avais pas le droit de ressortir. Et le lendemain matin, la radiologue est rentrée avec l'air grave et m'a dit, il va falloir faire plus d'examens. Ce que vous avez, c'est sérieux. Donc voilà, en 3 jours, j'étais passé de sportif, entraîneur, coach à patient entrant dans son parcours de soins.
Comment on fait cette transition du coup? Parce que là, elle nous tombe dessus, on n'est pas prêt. Donc
Maintenant, j'ai du recul. Alors j'analyse un peu plus les phases. Il y en a, j'en rigole. Il y en a, je pense qu'elles sont plus graves parce que quand elles se reproduisent chez d'autres, c'est quand même assez important. Mais sur le coup, c'est. Moi, j'ai cette référence-là. Il ne faut pas que les enfants écoutent, c'est pas une très bonne référence. Mais quand on m'a annoncé ça, j'étais dans ma chambre d'hôpital J'étais déjà pas content d'avoir passé la nuit à l'hôpital parce que je me sentais bien quand même. Et je savais ce qu'on allait m'annoncer. Je le connais bien, le milieu médical. Je suis presque chez moi quand je vais à l'hôpital. Je savais qu'on allait m'annoncer un truc de ce genre-là. Le mot cancer, il a commencé à tourner pendant la nuit. Et en fait, quand on te l'annonce, c'est là que tu prends le choc. Et j'ai eu l'impression de tomber au fond d'un trou, un peu comme dans le film Trainspotting.
Ouais. Voilà. D'où la référence.
D'où la référence un peu douteuse, mais c'est un peu ça. Et puis, ensuite, c'est le grand vide. C'est compliqué de retourner bosser parce que on voit pas le bout du tunnel. On ne sait pas ce qui va se passer. D'ailleurs, on ne sait pas s'il y a un bout du tunnel. Hein. C'est quand même une maladie létale. On ne sait pas comment ça va se passer parce que le dossier part quelque part. Donc, au bout de 3 jours, je vais voir ma radiologue inquiet à force de traîner à la maison. Puis je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Personne ne m'appelle là. On va où? Donc, elle me dit, t'inquiète pas, ton dossier a été transmis à Rennes. On va te contacter. Et puis, je lui dis, bah oui, mais moi, là, j'ai un problème. Je suis en profession libérale. Si je ne travaille pas, je n'ai pas de revenus. Il faut que je sache ce que j'ai parce qu'il va falloir que je prenne mes précautions. Et une semaine après, voilà, l'hôpital m'a appelé. J'avais des rendez-vous de posée pour des examens. Et je suis rentré dans le parcours de soins très rapidement. Il faut savoir que un mois après le premier examen aux urgences, je rentrais en chimiothérapie.
D'accord.
Ce qui est plutôt très rapide, quoi. Ce qui était lié aussi à ma pathologie.
Mais c'est la question que j'allais te poser. De toute façon, je suppose que c'est pas arrivé par hasard. Il y avait forcément un lien, enfin, au moment où tu en étais de la maladie.
Oui, alors en fait, j'avais mon lymphome, j'avais une masse qui était posée contre la colonne vertébrale dans l'abdomen, là, et qui commençait à s'emmêler dans le système nerveux. Donc les médecins voulaient attaquer très vite parce qu'il y a toujours le risque que la moelle soit infectée. Donc heureusement, les prélèvements ont été bons sur la moelle. Et donc ils ont attaqué la chimio. Mon hémato était ravi parce que il m'a dit oh vous êtes jeune et en bonne santé, on va pouvoir y aller. J'ai dit bah ouais, pas de souci, hein, je suis pour les nouvelles expériences. Voilà, donc j'ai eu le droit à ma dose. J'ai eu le droit à 6 à 8 doses, je sais plus combien, 6 je crois, ou 8, je sais plus. Et ça a duré 2 mois et demi, 3 mois, puisque ça a fini début septembre. Et ensuite, j'ai eu 2 ans d'immunothérapie.
D'accord.
Donc, c'était les débuts de l'immuno. Pareil, j'ai eu un petit coup de bol. Je suis tombé malade au bon moment. C'était les débuts de l'immuno et j'ai fait partie des premiers patients à avoir de tels traitements. C'était de l'immuno injecté. Donc, tous les 2 mois, j'allais faire mon injection.
Et ça, c'est sûr que quand on est malade, il vaut mieux que ça arrive, entre guillemets, le plus tard possible parce que la science continue à faire des progrès indéniables.
Bah, exactement. Il faut pas se leurrer. Il y en a qui sont sauvés parce qu'ils sont tombés malades au bon moment. C'est juste ça. Alors, les progrès sont énormes en ce moment. Plus on arrive à reculer l'échéance, mieux c'est. Hein. Surtout qu'on a quand même en France un système de prise en charge qui est plutôt oui. Bien fait. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était bien fait.
C'est pour avoir été aussi confronté au système médical, oui, effectivement, on a cette chance-là, en tout cas, telle qu'il est pour l'instant. Alors là, tu as répondu à mes 2 questions. Donc, pour attacher les wagons, tu parlais donc de ces jeunes que tu emmènes en mer, donc jeunes qui sont confrontés à la même problématique. Et comment tu fais à ce moment-là? Toi, tu n'es pas sort de savoir aussi. Tu parles avec eux de ce qui t'est arrivé?
Non, moi, je ne fais rien. Je suis là juste pour faire du bateau. En fait, il y a le principe de... Moi, j'appelle cette opération l'opération immersion. Moi, je ne suis pas un spécialiste santé. Autant il y a des bénévoles dans l'association ELI qui sont très pointus sur la connaissance des traitements, la connaissance des lymphomes. Moi, ce n'est pas mon cas. Je connais que ce que j'entends. Et par contre, je me suis très peu documenté sur le reste, moins maintenant qu'avant, parce que quand on est malade, on est quand même plus le nez dedans que maintenant. Et donc, en fait, on part en mer avec des bénévoles, mais le but du jeu, c'est de laisser les jeunes sortir de leur coquille. Il faut savoir que quand on rentre dans le parcours de soins, c'est pour ça que j'assime souvent un grand tunnel, on est tout seul, hein, dans les salles d'attente, on croise des gens qui n'ont pas forcément la même pathologie que nous, qui sont d'horizons différents, on n'est pas forcément en état de discuter les uns avec les autres. Quand on se retrouve dans les injections, enfin moi à mon époque, on était chacun dans un fauteuil séparé par un paravent, Un jour, on m'a dit qu'il y avait une psychologue qu'on pouvait consulter. J'en ai entendu que le nom, mais je ne sais pas comment on fait. Donc, on est très seul. Hein. On est très seul. Les seules personnes qu'on voit... Alors, moi, j'ai de la chance, j'ai ma famille, parce qu'on n'est pas toujours accompagné par sa famille. On peut être seul. Mais c'est mon infirmière de suivi, qui a été adorable, mais qui devait suivre aussi 10 personnes comme moi. Donc, elle répondait toujours quand j'appelais, mais elle n'a pas le temps de m'écouter non plus. Ils sont débordés. Hein. Donc, ce que je rencontrais, c'est le personnel médical, l'infirmière qui venait faire mes piqûres, des choses comme ça. Et sinon, on ne voit personne. On ne peut pas parler de sa pathologie avec d'autres personnes qui comprendraient ce qu'on vit. À part les gens que j'ai rencontrés au café Rencontre, Jean Delis, mais les copains qui viennent, ils te caressent l'épaule, ils ont vachement de compassion. En même temps, t'as pas envie de les faire chier avec ton cancer. Tu passes pas une heure à leur raconter ta vie non plus. Déjà, ils sont venus boire le café, c'est sympa. Et puis, t'as surtout envie de faire plein d'autres choses avec eux. Donc, on s'est dit, quand tu mets des gens dans un bateau, ils sont obligés de fonctionner ensemble, ils sont obligés de se parler, ils sont obligés de s'entraider, ils vont vivre une aventure commune. Donc le début de la communication, c'est avoir un point commun de départ sur lequel on va ensuite pouvoir
broder
énormément, discuter. Voilà, là tu les emmènes faire du bateau, déjà ils ont monté une voile à 4 ou 5 devant Granville, il suffit qu'il y ait un peu de vague, ils ont plein de choses à se dire. Après tu vas chercher une île, tu vas jusqu'à Chausey, tu navigues, il y en a qui sont malades, il y en a qui ont peur, il y en a qui aiment bien, il y en a qui se découvrent conducteurs de bateau, il y en a qui parlent d'eux, il y en a qui, puis voilà, puis à force de parler d'eux, ils parlent de la maladie, voilà. Et ça se passe comme ça.
Mais donc en fait, tu n'amènes pas le sujet. Le sujet vient s'il doit venir.
En plus, ils sont plus jeunes que moi. Je suis vieux. Hein. Enfin, j'ai pas 22 ans. Enfin, c'est pas vrai. Hein. Moi, j'ai 47 ans.
Et eux, ne se voit pas du tout.
Eux, ils ont entre 18 et 30 ans. Il y a quand même une génération d'écart avec eux, au moins. Je considère qu'il n'y en a qu'une pour le moment.
On avait dit quoi? C'est 25 ans la génération, je crois, de mémoire.
Voilà, et puis moi, je ne vais pas les questionner. Si eux veulent me parler d'eux, je les écoute. Je pose quelques questions quand même. J'aime bien savoir comment ils se sont retrouvés à bord. Et puis voilà, il y en a qui se livrent beaucoup, il y en a qui se livrent peu. Mais en tout cas, entre eux, ils vont garder un lien. C'est-à-dire que quand l'expérience sera terminée, et ça, on le sait, donc on a Jacqueline qui gère le projet au niveau d'Eli, qui est un petit peu, on l'appelle notre maman sur ce projet-là, et qui met tout le monde en contact, qui crée des petits groupes WhatsApp, des choses comme ça, qui distribue les photos, et en fait, on se rend compte que tous, ils restent en lien ensuite via les réseaux. Hein. Ils sont tous connectés sur Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat, enfin ce qu'on veut. Et là, dans leur parcours de maladie, ils sont moins seuls. Ils sont plus tout seuls dans le couloir. Les couloirs, tout d'un coup, il y a des ouvertures, il y a des portes entre les couloirs. Un petit peu comme dans Matrix. Et voilà à quoi sert le projet, en fait. Le projet, il sert donc à redonner confiance en ces jeunes-là. Ces jeunes, ils retrouvent confiance en discutant avec les autres, se rendent compte qu'ils ont les mêmes problèmes que les autres, en échangeant sur la manière dont ils réagissent avec leurs proches, dont ils réagissent avec leurs copains, dont ils réagissent dans la vie de tous les jours aussi, sur leurs angoisses du futur, de pas réussir à finir leurs études, de pas trouver de travail, sur le fait que la maladie implique beaucoup de blessures du corps. Alors, les blessures, il y en a des tonnes, hein, l'essoufflement, la prise de poids, la perte de cheveux, tout ça. Et ça apporte du bien-être.
Oui, et de pouvoir discuter avec des gens qui peuvent comprendre parce qu'ils traversent éventuellement des choses similaires.
Voilà, c'est ce qui revient. C'est la phrase qui revient, c'est au moins j'ai l'impression de parler avec des gens qui me comprennent. Et voilà, juste ça, ça suffit. Après, autour de moi, la maladie, de comment je l'ai vécue, de ce que j'en ai fait, de ce qu'elle a changé chez moi, de comment je l'ai utilisée, ça, dans mon quotidien de coureur professionnel, en tout cas, ça compte. Comment souvent je suis assez content quand les gens savent pas que j'ai eu un lymphome et que quand ils le découvrent, ils disent « Ah ouais !» Et en fait, ils se rendent compte que finalement, j'ai réussi à reprendre une vie normale, voilà. Donc c'est ce que je raconte aussi, hein. C'est ce que je raconte, c'est pas j'ai eu un accident de la vie, c'est avoir un traitement pour un cancer, ça laisse des séquelles pendant quelques années. Je pensais que ce serait assez vite fini, mais au bout de 6 mois, une fois que le cancer est traité, quand on a la chance, comme moi en tout cas, que le cancer soit traité, non, j'ai eu des séquelles pendant 3-4 ans. Et puis en fait, on se bloque souvent sur les séquelles physiques et psychologique, mais en fait il y a plein d'autres séquelles. Il y a aussi des séquelles personnelles, professionnelles, auxquelles on pense peu ou on pense pas, voilà. Et Et à un moment, je me dis, ben, j'ai commencé à bien reconstruire les choses et à pu être à ce que ce moment de ma vie m'est pas ne m'entrave plus, voilà. Et donc j'utilise maintenant ce que je fais pour raconter mon histoire et pour dans le cadre des lits apporter une nouvelle petite lumière à ceux qui sont encore dans le tunnel, quoi.
Un énorme merci, Nicolas, pour ton témoignage. Et puis, au plaisir de te recroiser à Granville ou pas, probablement sur un bateau. Moi, je veux bien vivre une expérience sur un bateau.
Bon, bah, par ce temps-là, c'est idyllique.
Je note.
Je t'emmènerai pas dans certaines conditions. J'aurais pas envie de revenir. Ou quoi qu'on en dise, on y prend. Il y a des moments où le plaisir est relatif.
Merci encore.
Déchocage est réalisé par TMDJC Création et produit par l'association Eli. Retrouvez la conversation entre Nicolas et Sébastien ainsi que l'ensemble de nos productions sur Eli.fr. E2LYE.fr.
MDJT Creations.